session théologique le 4 novembre 1994 à Rimont par le Père Martin, le Christ Rédempteur, quatrième cours.
J'espère que vous ressentez une frustration profonde, parce que évidemment vous comprenez bien que vouloir regarder dans la Bible tout ce qui annonce, préfigure et parle de la rédemption, c'est une tâche sans fin. Mais au moins, si on prend un peu plus conscience de la richesse de la révélation et de tout ce que contient l'Écriture, c'est pas mal. Alors, on essayait de regarder, donc, en insistant donc sur ce livre de la Genèse, qui est tellement riche, hein. Je vous ai dit, hein, ce que dit souvent le père Philippe, c'est une maquette. Donc la maquette, vous comprenez, il y a tous les détails en petit, et on met un temps fou à les repérer de manière minutieuse. Alors, si on reprend ce que nous étions en train de regarder sur le déluge, au moment de la décrue, qu'est-ce que fait Noé ? Noé, ben, il sort de l'arche et il va faire un sacrifice. Donc Genèse chapitre 8, verset 20. Je vous lis le passage. Noé bâtit un autel à Yahvé et prenant de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, de ceux qui purs au sens de ceux qui peuvent être offerts en holocauste, qui peut être sacrifié à Dieu. C'est Dieu, hein, qui a déterminé les purs des impurs. Donc on voit bien la manière dont l'homme religieux reçoit la manière dont il adore, dont il exerce sa religion de Dieu. Vous voyez ? Parce que l'homme religieux, c'est celui qui se reconnaît dans cette dépendance de petite créature vis-à-vis de son créateur. Donc il est normal que dans l'exercice même de sa religion, il reçoive les déterminations de Dieu autant que possible. Alors soit il les invente en disant que ça vient de Dieu, soit dans le cas où Dieu lui parle vraiment, il les reçoit de Dieu. Et ça, c'est tout le Lévitique, par exemple. Il faut lire le Lévitique en comprenant que c'est les prescriptions que Dieu donne et que le peuple d'Israël a la chance de recevoir parce que, justement, il est lié à Dieu. Et ces prescriptions, on en a soif parce que dans l'acte d'adoration, je veux être éclairé par Dieu. Donc, Noé bâtit un autel à Yahvé, prenant de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Yahvé respira le parfum apaisant. Et Yahvé dit en son cœur, « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme, car ce que forme le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. » Vous voyez, c'est assez étonnant comme raisonnement. « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme, car ce que forme le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. » A priori, c'est un peu paradoxal. Mais attention, on est dans l'ordre d'une préfiguration de la croix. C'est qu'à la croix où le cœur de l'homme recevra l'effusion de l'Esprit-Saint, ce qu'on a vu ce matin, et donc sera transformé profondément de l'intérieur. Là, au fond, Dieu dit, ben, il faut que je sois indulgent, parce qu'il y a quelque chose de congénital en l'homme qui fait qu'il agit mal. Donc ce n'est pas la peine que je m'énerve systématiquement. Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme, car ce que forme le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse, et jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait. Donc, ce thème du sacrifice, on a dit qu'on essayait de repérer un peu les grands thèmes, les leitmotifs. Donc ce thème du sacrifice, ce n'est pas la première fois qu'on le voit apparaître. Il est déjà apparu avec Abel et Caïn qui, chacun de leur côté, offraient leurs prémices, soit de l'agriculture, soit de l'élevage, à Dieu. Donc c'est une réapparition de ce thème du sacrifice. Il est précisé que ce sacrifice dégage un parfum apaisant. C'est-à-dire qu'il plaît à Dieu. Ça sent bon. Saint Paul dira explicitement du Christ dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, « Le Christ s'est livré pour nous, offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. » Et là, il y a une réminiscence explicite de Genèse 8:21. Donc, en Éphésiens 5. Donc, ce sacrifice de Noé, qui a cette vertu apaisante, pointe vers le véritable sacrifice apaisant, celui du Christ. Et il est bien précisé que c'est un holocauste qu'offre Noé. Tout est brûlé. Ça, c'est la croix. Tout est pris par la souffrance dans le Christ à la croix. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce sacrifice déclenche un nouveau jugement divin. Premier jugement divin, vous vous souvenez, ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais effacer de dessus la surface du sol les hommes que j'ai créés. Car je me repens de les avoir faits. Dieu qui réagit face à l'iniquité qui se généralise, face à la malice qui est dans le cœur des hommes. Maintenant, ce sacrifice déclenche un nouveau jugement. Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Donc il y a un nouveau jugement divin qui exclut le sacrifice, le châtiment. Vous voyez ? Le sacrifice change le regard, c'est pour ça qu'il est apaisant, le regard de Dieu sur l'humanité. Et tout châtiment du type du déluge est désormais exclu. Alors évidemment, tout ceci nous fait immédiatement penser au Christ. Comme le dit saint Paul, c'est Jésus qui nous délivre de la colère. Hein ? Dans la première épître aux Thessaloniciens. Jésus qui nous délivre de la colère qui vient par son sacrifice sur la croix. L'autre thème, et lui, ça c'est un thème qui va apparaître, alors que celui sur le sacrifice, c'était une seconde occurrence. L'autre thème qui va apparaître, c'est le thème de l'alliance, qui lui aussi est bien lié à ce qui va se passer avec le Christ. Donc, chapitre 9 de la Genèse, verset 8. Dieu dit à Noé et à ses fils avec lui. Donc, vous voyez, c'est une alliance qui prend l'humanité dans la succession des générations. Elle n'est pas personnelle avec la personne de Noé. Et moi, voici que j'établis mon alliance avec vous. Vous voyez, c'est cette initiative de Dieu. On a vu la création comme cette première initiative de Dieu. Voilà une nouvelle initiative de Dieu. J'établis mon alliance. Vous voyez, comme une espèce de roi qui décide qu'il s'allie avec celui qui est pourtant mauvais dès sa jeunesse. Et moi, voici que j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. Vous voyez, cette espèce de surabondance dans l'amour qui fait que celui dont il a décidé qu'il était mauvais, que néanmoins il ne l'exterminerait plus, il dit avec une magnanimité royale, j'établis mon alliance avec toi. J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, tout ce qui sort de l'arche, toutes les bêtes de la terre. Hein, souvenez-vous de saint Paul qui montre que toute la création gémit pour être elle aussi libérée de l'esclavage, de la caducité. Il y a quelque chose... L'être humain, parce que Dieu lui a donné ce gouvernement du monde créé, du monde matériel, il y a un lien entre toute la création et l'être humain. Cette création, elle retrouve sa respiration dans la mesure où l'homme se relie à Dieu. Et dès que l'homme pêche, toute la création est comme coupée de son aboutissement. Par l'homme qui adore, la création retrouve tout son sens. Et c'est cette alliance avec Noé qui a fait un sacrifice religieux. Cette alliance, elle vise à travers l'homme toute la création. Et comme c'est très fort dans, au fond, la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme de toute la création demeure, même si l'homme est pécheur, même si Dieu a voulu exterminer l'homme. J'établirai mon alliance, verset 11, j'établirai mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus supprimée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc vous voyez, l'alliance, elle recouvre la renonciation par Dieu au châtiment. Dieu s'engage à ne plus exterminer. Et cette alliance, elle est perpétuelle. Au verset 16, elle a comme signe bien connu l'arc-en-ciel. L'arc sera dans la nuée, et en le voyant, je me souviendrai de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, de toute chair qui est sur la terre. Elle est perpétuelle au moins du côté de Dieu. Dieu s'engage de son côté à ce qu'elle soit perpétuelle. L'homme peut faire ce qu'il veut. Dieu est fidèle, hein, comme dit saint Paul. Alors ces deux thèmes du sacrifice et de l'alliance vont bien sûr revenir, combinés ensemble dans toute la Bible. Pour aboutir évidemment à qui vous savez. Vous le voyez alors dans la seconde partie de la Genèse, avec Abraham. On pourrait parler beaucoup d'Abraham, évidemment, dans cette orientation vers le Christ, rédempteur. Là, je regarde simplement au chapitre 15 et au chapitre 17 de la Genèse. Ça commence par une promesse. Autre élément qui va nous aiguiller directement vers le Christ. Dieu fait une promesse. Donc, Genèse, chapitre 15, verset 5. Yahvé fit sortir dehors Abraham et lui dit, « Regarde vers le ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta descendance. » Donc, vous voyez, cette promesse, tout de suite, va tendre le récit biblique vers un avenir. Et ça, c'est très important dans la manière dont la Bible est constituée. C'est l'horizon eschatologique, si vous voulez. Il y a quelque chose qui va arriver. Et puis arrive au verset 9 un sacrifice. Yahvé dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans. » Une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham lui prit tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais les oiseaux, il ne les partagea pas. Bon, et ensuite, il y a toute une espèce de rite très, très primitif avec un feu qui symbolise la présence de Dieu qui circule entre ces moitiés d'animaux qui ont été dépecés. Je prends donc au verset 17. Quand le soleil fut couché et qu'il fit noir, voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux des victimes. En ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. Voilà la deuxième alliance de Dieu avec un homme. À ta descendance, j'ai donné ce pays, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Donc à ta descendance, quelque chose dans le futur. Le fleuve Euphrate. Etc. Puis il y a la liste de tous les natifs du lieu. En verset 17, il y a le signe de cette alliance, la circoncision. Chapitre 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, qui a changé de nom entre-temps, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations. » Vous voyez, c'est toujours, Dieu parle à quelqu'un, à Noé, mais il vise ceux qui viennent après lui. Le Christ qui vient à un moment donné, mais qui est tête d'une église qui se déploie ensuite dans le temps. Dieu dit à Abraham, et toi tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations. Et voici mon alliance que vous observerez entre moi et vous, et ta descendance après toi, tout mâle chez vous sera circoncis. Donc cette alliance, qui est encore unilatérale, c'est-à-dire que c'est Dieu qui s'allie, qui dit, il établit une alliance, de manière unilatérale. Cette alliance, elle se manifeste par un signe d'appartenance à ceux qui sont au groupe visé par cette alliance, qui bénéficie de cette alliance, qui est ici la circoncision. Qui la circoncision, et ça saint Thomas d'Aquin reprendra, qui préfigure les sacrements. Les sacrements qui nous font entrer dans la sphère du salut sont préfigurés par la circoncision qui marque l'appartenance au groupe avec lequel Dieu s'engage en Abraham, la descendance d'Abraham. Le second lieu où on va voir réapparaître sacrifice et alliance, c'est une troisième alliance, c'est bien sûr l'alliance au Sinaï. Après l'Exode, une fois que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il se retrouve au Sinaï. Moïse lui transmet la loi. Et puis, au chapitre 24 de l'Exode, il y a un rituel tout à fait unique. Donc, Exode 24, 4. Moïse se leva de grand matin et bâtit un autel au bas de la montagne avec 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya les jeunes gens des fils d'Israël offrir des holocaustes et sacrifier à Yahvé des taureaux en sacrifice de paix. Donc l'aspect du sacrifice que Moïse dirige. Il a ce rôle de dirigeant. Moïse prit la moitié du sang. Apparition du sang, enfin apparition, on retrouve le sang, hein, qu'on avait déjà vu dans Abel. Et puis il y a toute une histoire très étonnante au moment après le déluge où Dieu donne à manger les animaux aux hommes à condition qu'il n'y ait pas de sang. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et avec l'autre moitié il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, le livre de la loi, et le lut aux oreilles du peuple. Et ils dirent, tout ce qu'a dit Yahvé, nous le pratiquerons et nous l'écouterons. Alors ça, c'est très nouveau, parce que là, il y a un engagement du peuple. Donc cette alliance n'est plus unilatérale, elle est bilatérale. Vous voyez comment on s'achemine vers l'alliance parfaite, qui sera contractée par l'homme, Dieu. Rappelez-vous ce que disait Jean-Paul II dans Redemptor Hominis, il y a une réponse parfaite de l'homme dans le Christ. Et vous voyez comme c'est astucieusement fait, parce que vous avez d'abord des alliances où c'est des initiatives pures de Dieu, sans réponse de l'homme dans un contrat. Et maintenant, avec Moïse et dans l'Exode, vous avez un contrat. Le peuple dit, tout ce qu'a dit Yahvé, nous le pratiquerons et nous l'écouterons. Première réponse qui en préfigure, celle du Christ qui obéit jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Hein? Et vous savez bien ce que montre l'Épître aux Hébreux. Dès le premier moment de sa conception, le Christ le vit dans l'obéissance, dans une réponse d'obéissance. Tu m'as formé. Je vous retrouve le texte exact, qui est tellement beau. Si je le retrouve. Donc, Hébreux chapitre 10, « Sacrifice et offrande, tu n'en as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Holocauste et sacrifice pour le péché, tu ne les as pas agréés. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Ça, c'est la réponse du Christ. Dès le premier, vous voyez comment elle est présentée dans l'Épître aux Hébreux, dès le premier moment de sa conception. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça, c'est la réponse parfaite. Dans l'alliance parfaite. Donc, je reprends Moïse. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'alliance que Yahvé a conclu avec vous, suivant toutes ses paroles. » Alors, évidemment, tout ceci aboutit à ce que les paroles de la consécration, dans les prières eucharistiques, appellent l'alliance nouvelle et éternelle. La nouvelle alliance, elle est conclue dans le sacrifice sanglant du Christ. Il faut reprendre les paroles au moment de l'Eucharistie. La parole du Christ quand il inaugure l'Eucharistie. Jésus dit, par exemple à la fin de l'évangile de saint Matthieu, « Ceci est mon sang. » Donc on retrouve le sang. « Celui de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup en rémission des péchés. » Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses évidemment dans cette parole. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve le sang, l'Alliance, le sang d'un sacrifice, d'une oblation tout à fait parfaite, qui fait que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « sacrifice et oblation pour les péchés, tu n'en as pas voulu » parce que le sacrifice que Dieu agrée de manière ultime, c'est le don de lui-même que Jésus fait à la croix, où il dépose son âme, où il donne sa vie. Et ceci est caractérisé par le Christ comme une alliance, ce qui fait fond évidemment sur tout ce qu'on a vu avant dans la Bible. L'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec le peuple d'Israël, avec Moïse comme médiateur. Et cette alliance, elle est caractérisée par Jésus, par le fait que ce sang est répandu pour beaucoup en rémission des péchés. Donc elle a une efficacité unique, elle est répandue pour beaucoup, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a pour lesquels elle n'est pas répandue, mais elle est répandue pour tout le monde, et ça, ça fait beaucoup de gens. Et elle n'est pas là, vous voyez, pour constituer un peuple élu qui se caractérise par différence par rapport aux autres. Elle est là pour la rémission des péchés. Ce péché dont on a vu qu'il a pris toute l'humanité. Il s'est généralisé avec l'humanité sur toute la terre. Donc ce sacrifice du Christ, il a une vertu unique, universelle et radicale, parce que, comme le montrait le Saint-Père dans Redemptor Hominis, il établit à nouveau le lien entre Dieu et l'homme, il rétablit la justice dans le cœur humain à partir de la justice dans le cœur du Christ. C'est pour ça que saint Paul parle d'une nouvelle alliance. C'est l'alliance nouvelle. Dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, 25. Alors, ce n'est pas pour rien que vous avez l'Eucharistie. Ce n'est pas pour rien que ce sont les paroles liées à l'institution de l'Eucharistie. Parce que ce sacrifice du Christ, préfiguré par tous les sacrifices de l'Ancien Testament, il est commémoré et rendu présent dans l'Eucharistie, qui est le nouveau signe. De la même manière que la circoncision était le signe éminent de l'appartenance au groupe concerné par l'Alliance, c'est l'Eucharistie qui est comme sacrement signe du salut qui est donné. Mais un signe qui est comme un bon sacrement du Nouveau Testament, un signe efficace qui réalise ce qu'il signifie. C'est pas simplement, vous voyez, c'est pas symbolique l'Eucharistie. Ça vous change profondément. L'Eucharistie étant donné à la croissance de la charité. Que vous en rendiez compte ou non. Alors, un tout petit mot, puisque là, c'est à propos de Noé, sur la tour de Babel. Tour de Babel, il n'y a pas beaucoup de figures du Rédempteur. Tour de Babel, c'est donc ce propos, chapitre 11 de la Genèse, verset 4. Les hommes qui tout à coup décident une espèce d'entreprise prométhéenne. C'est l'équivalent dans la Bible du mythe de Prométhée. Donc, Genèse 11, verset 4, ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux. » Voyez donc, le symbole est très clair. Il s'agit pour l'homme, pour les hommes, parce que c'est leur collectivité qui est là en cause, d'atteindre par eux-mêmes le ciel, en construisant. Donc, c'est une histoire de mortier et de briques, de bitume. Et de briques, pardon. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux et faisons-nous un nom Et cet orgueil, hein, quand on va à Rome et qu'on voit sur tous les monuments Alexandre VII, Paul V, Clément VII. Curieux. Faisons-nous un nom de peur que nous nous soyons dispersés à la surface de toute la terre. Et puis le Seigneur se penche pour voir ce qui se passe. Et au verset 8. Et Yahvé les dispersa de là à la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc ça aboutit à la dispersion de l'humanité. Et au verset 9, voilà pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Yahvé brouilla le langage de toute la terre. Et donc l'absence de cette communication entre les hommes, symbolisée par le fait qu'on a différents langages. Donc ils ont voulu s'unir, de peur que nous ne soyons dispersés à la surface de toute la terre, disait-il au verset 4. Et ça aboutit exactement à l'effet inverse. Donc là, vous avez une espèce de mise en lumière que l'orgueil collectif, l'orgueil de cette humanité qui se rassemble en vue de pouvoir s'élever par elle-même, parce qu'évidemment, chacun individuellement, il sent bien qu'il est limité. Mais il y a une espèce d'ivresse de l'humanité qui se rassemble et qui, là, arrive à s'entretenir dans l'idée qu'elle peut arriver à s'élever au-dessus de ses limites. Cet orgueil collectif aboutit à briser la communion entre les hommes. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que on a vu un ordre. Dans les récits de la création, si vous vous souvenez, il y avait ces deux dimensions de la relation à Dieu dans la vie contemplative, et de la relation à l'autre, dans le lien entre Adam et sa femme. Cette relation à Dieu, elle est brisée par l'orgueil, où la créature, on l'a bien vu, refuse de vivre de sa dépendance par rapport au Créateur. Et elle s'exalte dans son autonomie. La relation à l'autre, elle est brisée par la jalousie, qui aboutit au meurtre. Quand vous êtes jaloux, ben au fond, il y a une chose que vous désirez, hein, au niveau psychologique, évidemment, ça ne passe pas tout le temps à l'acte, c'est la disparition de celui qui vous rend jaloux. Quand l'orgueil devient collectif, ce qui est le cas de la tour de Babel, puisqu'ils sont tous ensemble en train d'essayer de monter leur truc, là, immédiatement, la communion entre les hommes est brisée. Vous voyez, parce qu'il devient collectif, la relation à l'autre, entre eux, hein, entre les différents intervenants, est immédiatement brisée. Vous voyez, il n'y a pas deux choses là. Il y a cette tour de Babel et la dispersion des êtres humains. C'est immédiat. Et c'est d'autant plus fort que c'est le propos de l'être humain. L'être humain, il vit quelque part, souvenons-nous d'Aristote qui dit qu'il est un animal social, il vit pour cette union dans une communauté, pour une unité dans la communauté. Il aspire à cela. Mais quand il le cherche de manière purement autonome, il aboutit à son contraire, à la division et à la dispersion. Là, évidemment, vous avez en creux la communion dans le Christ, c'est-à-dire ce qui se vit dans le corps mystique. Tous ceux qui sont unis au Christ, tous ceux qui vivent de l'Esprit Saint et de la charité, sont par là même unis les uns aux autres. Hein ? Relisez tout ce que dit saint Paul sur la charité. Vous êtes les membres les uns des autres. Vous voyez, bon, pas trop chercher à imaginer, mais vous voyez ce lien inextricable entre les chrétiens qui forment un seul corps, donc l'unité du corps. Cette communion dans le Christ, évidemment, qui est fruit du don de l'Esprit-Saint et du don de la grâce, elle est rendue visible de manière plénière à la Pentecôte. Hein, et c'est pas pour rien qu'à la Pentecôte, on voit que tout le monde parle toutes les différentes langues, allusion évidente à ce qui s'est passé, à l'inverse, avec Babel. Et donc ça, c'est très fort. Ça veut dire que ce que cherche l'homme, cette communion entre les hommes, n'est rendu vraiment possible que par un don divin. Vous voyez, c'est toujours la même histoire. Il y a une aspiration dans l'être humain, profonde. Il s'illusionne en croyant l'atteindre, pouvoir l'atteindre par lui-même. Ça, c'est tout de suite le premier récit de péché dans la Genèse, hein, au chapitre 3. Et c'est ça que Dieu veut éviter. Alors, cette communion qui est parfaite dans le corps mystique, dans le Christ, dans l'union au Christ rédempteur, elle est déjà annoncée, préfigurée avec Abraham. Parce que vous avez donc cette césure très, très forte. Les 11 premiers chapitres de la Genèse finissent par Babel, et donc cette dispersion de l'humanité. Et ensuite, chapitre 12, Abraham, qui est une espèce de nouvelle initiative complètement radicale de Dieu, parce que c'est dans la gratuité absolue. Pourquoi tout à coup il choisit de s'adresser à Abraham? Il n'y a aucune raison, sinon un choix gratuit. Pas plus de raison qu'il choisisse Abraham qu'il choisisse de créer. C'est un choix d'amour. Mais Abraham, par ce choix d'amour purement gratuit, Dieu répond au dessein désordonné de l'être humain. Ce dessein désordonné qui a éclaté dans Babel, où les êtres humains ont voulu se réunir entre eux et ça a échoué lamentablement, il se retrouvera parfaitement dans le Christ, mais il est déjà annoncé avec Abraham. Donc au chapitre 12, la fameuse vocation d'Abraham, « Yahvé dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Donc vous voyez, l'irruption de Dieu dans la vie d'un homme, sans raison. « Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai. » Déjà, quelque chose, Dieu s'implique avec cet être humain. On retrouve toujours cette espèce de proximité avec l'être humain qui est voulu par Dieu, qui est cherché par Dieu et qui est tellement symbolisé par le récit de la création. On voit que Dieu façonne l'être humain. Il y met les mains. Et enfin, la phrase que je voulais vous lire, « Par toi se béniront toutes les familles de la terre. » Voilà, ces familles de la terre qui sont dispersées en conclusion de toute l'histoire dans les 11 premiers chapitres de la Genèse du péché. Elle se rassemble avec le nom d'Abraham, avec le nom de quelqu'un qui a été choisi par Dieu, qui est le gugus local, hein, mais qui est choisi par Dieu. Eh bien, tous se rassemblent avec lui. Bon, c'est pas très respectueux pour Abraham. Alors, vous voyez, il faudrait essayer évidemment d'un peu synthétiser, d'un peu rassembler ce qu'on a essayé de voir. Tout prend fond sur la création. La création, c'est le don que Dieu fait et qui inaugure toute l'économie divine. Il ne fait pas que inaugurer l'économie divine, ce don. Ce don de la création préfigure un don de surabondance qui est celui de la rédemption. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la création, ce n'est pas simplement un premier. C'est aussi une préfiguration, hein, c'est ce que la Bible montre bien. Dans l'ordre du don, par rapport à un don ultime, en face de ça, il y a le péché. On a bien vu qu'il arrivait en second. Le péché n'est pas premier. Le péché demande une créature pour pécher. Ce péché, on peut le regarder comme refus du don. Le refus du don, hein, il peut se faire de deux manières. Soit vous refusez le don, soit vous refusez qu'on vous le donne et vous mettez la main pour vous le prendre par vous-même. C'est aussi un refus du don. Vous voyez, c'est aussi inamical que le fait de dire « je ne veux pas de ton don ». Et ça, c'est ce qui se passe avec l'être humain, comme avec l'ange d'ailleurs. C'est une espèce de prétention à une autonomie absolue. Oui, l'être humain a une autonomie, bien sûr, par son esprit, qui le rend à l'image de Dieu, mais cette autonomie est vécue dans une dépendance plus profonde. Et dès que l'être humain s'appuie sur le don que Dieu lui a fait de cette autonomie pour refuser le fait que, justement, il la tient de Dieu, désordre, péché. Alors, donc vous avez là... Dans ce péché, vous avez un usage perverti de la liberté humaine. Cette liberté humaine, elle est le fruit de ce don capital que Dieu fait à l'homme, qui est le don de l'esprit. L'esprit aboutit au fait que l'homme est libre. L'esprit, son intelligence et sa volonté. voyez, c'est vraiment. Vous voyez, c'est un. C'est. Quand même, il faut bien regarder, il y a un monstrueux gaspillage. Ce qui permettrait à l'homme d'entretenir une relation intime et aimante avec Dieu, avec les autres, est tourné contre Dieu et contre les autres. Donc c'est quand même. Bon, c'est un peu fort. Mais ça ne fait pas reculer Dieu de la réalisation de son dessein. Au contraire, on a envie de dire. Il s'acharne dans la réalisation de son dessein. Et ça, on le verra dans toute la Bible. La manière dont, au-delà de tous les refus, Dieu continue, 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 persévère, persévère. Mais le fait qu'il persévère face à un homme qu'il refuse, ça veut dire que ce dessein se réalise dans la lutte. Et ça, cette lutte, ben, elle culmine dans l'espèce d'affrontement que nous rappelle l'évangile de Saint Jean entre les Juifs et le Christ. Dès le chapitre 5 de l'évangile de Saint Jean, vous avez une hostilité qui apparaît. Chapitre 5 de l'évangile de Saint Jean, Jésus guérit le malade de la piscine de Bethsaida. Ça fait 38 ans qu'il traîne sur le bord de la piscine. Jésus le guérit. Réaction immédiate de l'homme. Il commence à vouloir faire mourir Jésus. Il commence à le persécuter. Donc, vous voyez, c'est un espèce de raccourci saisissant de tout ce qu'on vient de voir. Le don de Dieu qui n'aboutit qu'à une hostilité de la part de l'homme. Mais ça se revit dans le Christ au moment où le Christ va sauver l'être humain. Vous voyez, on voit bien la manière dont Dieu persévère dans son dessein. Il utilise ce mal, quand même capital, qui est la lutte de l'être humain par rapport à la volonté de Dieu de l'élever jusqu'à lui, pour permettre justement que l'homme soit élevé jusqu'à lui. Alors, tout ceci aboutit donc au salut qui fait fond sur la création. Hein. Il n'y a pas la création demeure. Elle n'est pas, même s'il y a quelque chose de très fort dans le salut, c'est pas pour ça que la création disparaît. Petite chose qui n'est pas très claire chez Karl Barth. Karl Barth, donc, est un protestant, fait une théologie justement où il montre comment la création, c'est une théologie biblique en fait, comment la création est complètement aspirée par la recréation dans la grâce. Alors faisons attention, cette création, cette recréation, ce que Dieu réalise en réconciliant finalement l'homme avec lui, elle fait fond sur quelque chose qui reste toujours là, cet aspect de création. C'est une recréation, mais qui ne supprime pas la création. C'est-à-dire que, ça c'est très important à bien comprendre, ça veut dire que au moment où Dieu me réconcilie avec lui, où je retrouve l'union avec lui, je ne cesse pas d'être créature. Au moment où Dieu me divinise, je suis toujours la petite créature. Et en plus, je suis toujours cette petite créature qui a toujours tendance à se rebeller contre son Père. Et ce salut, qui est donc une recréation, fait fond aussi sur tout le fond de péché qui se manifeste dans les récits de la Genèse par toute la violence. Et donc, ce péché qui asservit l'homme, qui le rend esclave, j'en suis délivré par le salut. Le salut a, par rapport au péché, un aspect de libération, une théologie de la libération. Eh bien sûr que nous sommes libérés. Mais nous sommes libérés, évidemment, pas dans le sens où on est libéré d'abord des oppresseurs temporels, mais on est libéré du péché. Alors, cette libération, la grande image de cette libération par rapport au péché, de l'humanité par rapport au péché, c'est l'Exode. Alors, on pourrait faire 40 000 choses, mais je voudrais vous dire un petit mot sur l'Exode. C'est quand même assez important quand on parle du Christ rédempteur et de la rédemption. Pourquoi choisir l'Exode? Parce que l'Exode, c'est vraiment une espèce d'énorme parabole. Tout l'Ancien Testament est parabolique, c'est-à-dire préfigure le Nouveau Testament, et en particulier l'action du Christ. Mais alors l'Exode, je dirais au carré. Souvenez-vous de ces récits de l'Exode que l'on lit à la veillée pascale, qui est le seul récit de l'Ancien Testament qu'on doit lire, si je me souviens bien. Donc tout ce livre, c'est une parabole du salut. Ça, c'est ce que dit déjà saint Paul. Quand il s'appuie sur des faits survenus dans l'Exode, il dit aux Corinthiens, c'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, ces faits, les histoires des serpents qui les dévoraient, etc. Ces faits arrivaient figurativement aux Hébreux. Et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui touchons à la fin des âges. Donc, vous voyez, l'aspect parabolique est bien montré. Tout ceci, tous ces événements de l'Exode ne sont pas loin de vous, c'est ça que dit Paul. Ils préfigurent ce que vous vivez. Et ils sont là pour vous éclairer, vous permettre de mieux vous diriger dans cette vie nouvelle que vous donne le Christ. Alors évidemment, ce n'est pas une parabole simplement au sens d'une petite histoire, parce qu'il y a des faits réels derrière. Ce que montre saint Thomas d'Aquin, quand il montre que seul Dieu a la possibilité de faire des paraboles en actes. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas simplement des mots pour raconter quelque chose, mais il utilise aussi des situations réelles qu'il suscite par sa providence, situations réelles qui annoncent prophétiquement quelque chose qui se passera plus tard. Donc les Hébreux sont bien sortis d'Égypte, ils sont bien sortis menés par quelqu'un qui s'appelait Moïse, et ceci, dans le dessein de Dieu, préfigure la grande rédemption opérée par le Christ. Ça, c'est la caractéristique de Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Vous ne pouvez pas faire des événements qui prophétisent ce qui se passera 20 siècles plus tard. Même si vous êtes un metteur en scène génial, rien ne vous promet que ça se passera sur une plus grande échelle 20 siècles plus tard. Vous voyez, tout ce qui signifie, tout ce qui prophétise la rédemption réelle dans le Christ. Le peuple hébreu est en danger de mort. Pharaon veut supprimer tous les enfants de mâle. Donc c'est vraiment une question de vie ou de mort. Donc, parallèle par rapport à la rédemption dans le Christ, il s'agit de notre mort spirituelle et de notre vie surnaturelle. Le fait que les Hébreux sont opprimés par des oppresseurs qui sont de plus en plus insupportables. Image de notre oppression par le péché et par le démon. Mais tout ceci, ce n'est pas des pures images. Il y a un fait réel, même si on ne peut pas le reconstituer comme on reconstituerait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des faits réels qui sont là. Et puis plus profondément, ce n'est pas une simple parabole, vous voyez, au sens où ça ne serait que des mots. Bon, ça c'est l'aspect qui a un aspect réel derrière, une expérience réelle. Et puis, même s'il y a un aspect très temporel, l'Exode, ils sortent d'Égypte. Ils sont promis à une terre promise, qui est un lieu concret sur la terre, qui est la Palestine. Mais aussi, tout ce qui est raconté dans l'Exode ne s'arrête pas à ce niveau temporel. Parce que parmi les Hébreux qui sont sauvés, il y en a au moins quelques-uns qui vivent profondément de cette vie surnaturelle qui est ultimement visée et que donnera le Christ et qu'il donne déjà par avance par rapport à la croix. Et ça, on peut le dire au moins de quelques-uns, et en particulier de Moïse. Moïse, l'épître aux Hébreux, montre qu'il vit de la foi, donc il vit de la grâce. Donc, vous voyez, l'Exode, c'est une parabole très particulière. Il y a des faits réels qui sont orchestrés magistralement par Dieu. Des faits réels, bon, au niveau temporel. Et puis, la réalité du salut est déjà là. Il y a des saints. Moïse est un saint, hein, on le lit au martyrologe. La grâce est déjà là. Donc, tout ça pour, vous voyez, clarifier le statut prophétique de l'Ancien Testament. Vous voyez, c'est pas des mots, l'Ancien Testament. C'est une histoire où le salut est déjà à l'œuvre. Alors, on pourrait dire évidemment beaucoup de choses sur l'Ancien Testament. Je voudrais juste me concentrer sur la place de Moïse. Moïse, c'est le seul auquel le Nouveau Testament, le seul avec Jésus évidemment, donne le titre de médiateur. Donc cet aspect du Christ. Jésus, saint Paul nous dit dans la première épître à Timothée, c'est l'unique médiateur. Bon, alors ça paraît assez clair. Mais voilà que dans l'Épître aux Galates, il nous parle de ce médiateur qu'est Moïse, dans le don de la loi. Voilà que Moïse est aussi médiateur pour le don de la loi aux Hébreux. Donc vous voyez, il y a un parallèle très fort entre Jésus et Moïse. Parallèle qui peut être au moins décrit selon deux dimensions. Moïse, c'est avant tout un prophète. Donc il préfigure le Christ dans l'ordre de la révélation. Hein, si vous vous souvenez ce qu'on a vu ce matin. On ne peut pas le préfigurer dans l'ordre de l'incarnation. Quoique l'histoire de l'enfance de Moïse, évidemment, est une espèce de préfiguration assez curieuse de l'enfance de Jésus. Donc Moïse comme médiateur, il est d'abord dans l'ordre de la révélation. Souvenez-vous, au chapitre 3 de l'Exode, du récit de sa vocation. Dieu lui apparaît dans un buisson, puis il le charge de transmettre son nom. « Je suis celui qui suis. » Tu diras au fils d'Israël, « Je suis t'a envoyé. »« Je suis m'a envoyé. » Et puis au Sinaï, au moment où la loi va être donnée, au chapitre 19 de l'Exode, il y a tout ce passage où Dieu appelle Moïse et lui dit « Tu vas être celui qui va répéter mes paroles au peuple. » Donc ça, c'est ce médiateur dans l'ordre prophétique, hein, qui donc nous dit quelque chose, annonce par avance ce grand médiateur dans l'ordre de la révélation qu'est le Christ, et le Christ crucifié. Alors vous avez un peut-être vous lire quand même ce petit passage du Deutéronome qui est très beau. Le Deutéronome s'achève au chapitre 34 sur ce petit passage qui marque bien la qualité unique de Moïse comme prophète avant Jésus. Deutéronome au chapitre 34, verset 10. C'est la fin du Pentateuque, hein, donc quelque chose là, une espèce de récapitulation. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, lui que Yahvé connaissait face à face. Vous voyez, il y a une proximité de fait entre Moïse et Dieu qui a servi à Moïse pour servir d'intermédiaire dans toute la révélation. Et puis, Moïse est médiateur, pas simplement pour ça, pas simplement pour un aspect des révélations. Il est médiateur pour tout ce qui est de l'ordre de la libération du peuple d'Israël. C'est lui qui va diriger, et d'ailleurs à son corps défendant, il n'a aucune envie de le faire, il va diriger tout ce qui est de l'ordre de la libération d'Israël. Par le don de la loi qui est impliqué dans la révélation. Parce que, ça c'est un point qu'il faut peut-être préciser, il est médiateur dans l'ordre de la révélation. Il donne le nom de Dieu, donc il révèle le mystère divin. Alors, il le révèle de manière assez énigmatique, hein, parce que je suis celui qui suis, ça ne nous dit pas grand-chose. Un peu, quand même. Et puis, le don de la loi, il est révélateur dans l'ordre de ce que Dieu donne à son peuple pour l'éduquer progressivement et le rééduquer à l'adoration. Il y a toute une pédagogie divine dans la loi. Mais ça, c'est pas simplement, vous voyez, c'est pas simplement une information. Ça constitue un peuple. Donc, Moïse entraîne le peuple d'Israël en dehors de l'esclavage d'Égypte, et puis, par toute l'activité en particulier judiciaire, son activité de gouvernement qui a une telle importance au niveau judiciaire, la mise en œuvre de la loi et toutes les décisions qui s'ensuivent, il constitue le peuple. Donc c'est pour ça que le peuple d'Israël, évidemment, aura tendance à regarder Moïse avant Abraham, parce que comme peuple, il remonte vraiment pour son organisation à Moïse. Et puis, il y a tout l'aspect de l'alliance que l'on a vu, où il prend ce sang, il asperge tout le monde, il interroge. Donc, il y a un aspect, vous voyez, préfiguratif d'une réconciliation telle que le Christ l'opérera comme rédempteur. Il a un rôle, Moïse aussi, dans cette alliance qui se noue entre Israël et Dieu. Alors, c'est une médiation imparfaite. Moïse Il a un petit moment de défaillance. Dieu lui dit, tu n'as pas fait éclater ma sainteté, l'histoire des eaux de Mériba. Et du coup, il ne va pas entraîner le peuple dans la terre promise. Il doit laisser sa place à Josué. Donc vous voyez, on voit bien le caractère imparfait de cette médiation. Il y a quelque chose de très grand chez Moïse. Tout ce qu'il fait. Et puis ça échoue, vous voyez, dans... C'est comme une histoire mal tournée, quoi. Au dernier moment, la conclusion est lamentable. Alors, évidemment, la conclusion est lamentable et c'est imparfait parce qu'il y en a un qui est parfait, qui est Jésus. Qui, lui, vous voyez, c'est l'efficacité propre du Rédempteur qu'est le Christ. Il a une efficacité parfaite. Il y a pas, on ne s'arrête pas à regarder du monde est beau, la terre promise au loin. Il nous y fait entrer. Il dit au bon larron, aujourd'hui, avec moi, tu es dans le paradis. Et alors c'est là où Jésus dépasse Moïse. Là, ce qu'on a déjà touché avec l'efficacité du sacrement de l'Eucharistie par rapport à la circoncision ne marche que parce qu'on a la foi. L'Eucharistie, comme sacrement, a une efficacité propre. Alors, vous voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre, évidemment. Quand on regarde dans l'Ancien Testament toutes les préfigurations du Christ, et quand on regarde en particulier toutes les différentes personnes, Abel, Noé, Abraham, Moïse, tout cela sont des, vous voyez, des pierres d'attente, des petits, par rapport à celui qui est... Alors là, celui... on s'y arrête. C'est la personne du Christ Sauveur. Et c'est cette personne du Christ Sauveur qui fait toute la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, il y a des préfigurations, mais il ne faut surtout pas s'y attacher de telle manière qu'on passerait à côté de celui dont elles sont des préfigurations. Et c'est ça le drame des Juifs. Les Juifs, tels qu'ils sont montrés dans l'Évangile de Jean, vont s'attacher à Moïse. Et s'attachant à Moïse, sont aveugles face au Christ. Et vous avez la réaction très forte de Jésus face à cela, qui sent évidemment immédiatement. Chapitre 5 de l'Évangile de Saint Jean. À la fin du chapitre 5. Et versets 45 et 46. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis, vous, votre espoir. Vous voyez, c'est terrible ça. Moïse, son odyssée s'achève sur quelque chose qui est imparfait. Moïse lui-même a dit, il se lèvera un autre prophète. Moïse reste dans l'ordre temporel, il fait rentrer dans une terre promise temporelle. Tout ceci est complètement ouvert sur quelque chose d'autre. Il y a toujours place pour une espérance, qui n'est pas en Moïse, mais en quelqu'un d'autre. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis, vous, votre espoir. Et alors là, Jésus devient cinglant. Si vous croyez Moïse, en effet, vous me croiriez aussi. Car c'est de moi qu'il a écrit. Donc vous voyez, le Christ dit très bien, Moïse renvoie à un médiateur parfait qui est moi-même, le Christ. Qui suis médiateur parfait en tant que je suis Dieu et homme. Hein, ce qu'on a vu ce matin dans Rédempteur Hominis. Et si j'ai une foi en Moïse, c'est une foi qui le regarde comme quelqu'un de tourné vers quelqu'un d'autre. Et donc cette foi en Moïse... C'est une foi en un instrument dont Dieu s'est servi comme préfiguratif de l'instrument parfait, qui est cet instrument conjoint dont on parlait ce matin. Donc cette foi en Moïse m'oriente vers le Christ. Alors cette place unique du Christ, évidemment, c'est le prologue qu'il exprime de manière, en reprenant la comparaison avec Moïse. Il y a tout, dans tout l'évangile de Saint Jean, on n'a pas le temps de le faire, mais on pourrait reprendre tout l'évangile de Saint Jean en montrant comment l'évangéliste montre justement comment Moïse, tout ce qui a été vécu pendant l'Exode, oriente vers le Christ et serve à manifester quelque chose du mystère du Rédempteur, du mystère du Christ. Alors dans le prologue, Jean donne cette petite phrase. Donc dans le prologue de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse. Vous voyez, la médiation de Moïse, elle est avant tout dans le don de la loi. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est-à-dire ce qui nous rétablit, ce qui nous réconcilie réellement avec Dieu, et la vérité, ce qui nous introduit dans la contemplation du mystère divin tel qu'il est. Je verrai Dieu tel qu'il est. Donc, l'humanité atteint sa finalité dans le Christ seulement. Moïse n'est là que pour constituer un peuple dans lequel doit apparaître celui qui restaure le lien entre l'humanité tout entière et Dieu tel que Dieu le veut. Moïse, c'est comme le dirait saint Paul, un pédagogue, quelqu'un qui vous achemine vers là où vous devez aller. Mais celui qui vous met là où vous devez être, c'est le Christ et personne d'autre.